Exposition biblique, chapitre 5. Dépouillez-vous du vieil homme et revêtez-vous de l'homme nouveau. L'Église déjà appelée comme ceux sans levain est la réalité de la sainteté. Rejetez les péchés des vieilles habitudes et suivez la parole de Dieu. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Première épître aux Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 2. L'exhortation à rejeter les péchés imprégnés de vieilles habitudes et à suivre la parole de Dieu est un enseignement important que Dieu souligne continuellement aux saints. Cela signifie que lorsqu'une personne croit à l'évangile de l'eau et de l'esprit et vient à connaître Dieu, sa vie ne doit pas continuer à s'écouler dans la même direction qu'auparavant, mais elle doit s'écouler dans une vie de foi qui suit la volonté du Seigneur par la foi, qui croit en la nouvelle parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. La Bible exprime la vie où un humain vivait auparavant dans le péché comme le vieil homme. Éphésiens chapitre 4, verset 22 dit « À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. » Ici, les vieilles coutumes désignent le mauvais mode de vie dans lequel une personne suivait familièrement le péché avant de connaître la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Parce que ces vieilles habitudes se sont installées dans l'esprit et les actions depuis longtemps, elles ne disparaissent pas facilement. Mais une personne qui croit en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la parole de Dieu, ne peut pas vivre en suivant une vie pécheresse selon les vieilles habitudes. De plus, Romains chapitre 12, verset 2 exhorte « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Une personne est facilement influencée par l'environnement qui l'entoure et par son mode de vie antérieur, mais la parole de Dieu renouvelle nos esprits et nous guide pour vivre dans la direction de la propagation de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par conséquent, plutôt que d'essayer de maintenir ses vieilles habitudes telles quelles, un saint doit vivre en fixant la direction de ses pensées et de sa vie dans la foi à travers la parole de l'évangile de Dieu. L'œuvre de rejet des vieilles habitudes ne s'accomplit pas complètement par la seule volonté humaine, mais elle s'accomplit dans une vie axée sur la propagation de la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. La parole de Dieu nous permet de discerner ce qui est bien et ce qui est mal, et le Saint-Esprit conduit l'esprit d'une personne à vivre pour la propagation de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, la croissance de la foi ne s'achève pas d'un seul coup, mais en vivant pour la propagation de l'évangile de Dieu, on en vient progressivement, à vivre une vie davantage pour l'Évangile. En fin de compte, la parole disant de rejeter les péchés imprégnés de vieilles habitudes et de suivre la parole de Dieu a la signification de vérité suivante. C'est vivre de manière nouvelle selon la vie de foi qui croit à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, en croyant la parole de Dieu. Par conséquent, l'Esprit et la vie d'une personne sont progressivement transformés, devenant quelqu'un qui vit selon la volonté de Dieu. Paul transmet la réalité choquante de l'Église de Corinthe. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Cependant, ce que Paul considérait comme plus grave, c'était le cas de ceux qui, même après avoir commis le péché, n'essayaient pas de se détourner. Cela signifie que cette ville était une ville obscène. Un repère de criminalité ou de tels crimes bouillonnait toujours. Par conséquent, ceux qui avaient vécu imprégnés d'une telle vie n'ont pas essayé de se détourner de leurs crimes même après avoir rencontré la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'était le résultat d'une mauvaise compréhension de la vérité concernant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils devaient absolument devenir ceux qui réalisent leurs péchés à partir de leurs mauvais crimes, s'en détournent et vivent comme des chrétiens. Vous devez savoir le fait que le Seigneur ne prend pas plaisir aux chrétiens qui aiment commettre des crimes. Le Seigneur prend plaisir aux chrétiens qui offrent leur corps comme des instruments de justice pour la propagation de la parole de l'évangile, de l'eau et de l'esprit. Celui qui ne poursuit que les désirs de la chair après être né de nouveau subira le désastre de la chair. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 3 à 5. Il avertit que même après être né de nouveau, si une personne vit en ne suivant que les désirs de la chair, sa vie finira par entraîner la perte de la foi spirituelle. C'est parce que pour ceux qui croient à la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui sauve du péché, cela signifie que la direction de leur vie est changée vers Dieu. L'apôtre Paul parle clairement de ce principe dans Galates chapitre 6 verset 8. « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Cette parole signifie que le résultat apparaît en fonction de la direction dans laquelle une personne vit et de ce qu'elle suit. Une vie qui ne suit que les désirs de la chair entraînera finalement des résultats corruptibles et destructeurs. De plus, Romains chapitre 8 verset 13 dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites se mourir les actions du corps, vous vivrez. » Ici, Paul distingue clairement une vie vécue en suivant les désirs de la chair d'une vie vécue en suivant le Saint-Esprit. Les désirs de la chair font qu'une personne se détourne de Dieu et peuvent finalement conduire au résultat du déclin spirituel et du jugement. Les désirs de la chair dont parle la Bible ne signifient pas simplement les besoins naturels des humains, mais désignent des désirs enclins au péché. Galates 5, tout en expliquant les œuvres de la chair, mentionne des choses telles que l'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie, la jalousie, les querelles, les divisions et l'avidité. Ces choses deviennent des éléments qui font que l'esprit d'une personne se détourne de Dieu et détruisent la communauté. Ce qui est important pour une personne née de nouveau, c'est qu'elle ne doit pas vivre en suivant les désirs de la chair, mais doit vivre pour la propagation de l'évangile de l'eau et de l'esprit, selon la direction du Saint-Esprit. Galates chapitre 5, verset 16 dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Une vie vécue en suivant le Saint-Esprit ne signifie pas simplement une vie ascétique, mais c'est une parole pour vivre pour la volonté de Dieu et l'évangile de l'eau et de l'esprit. De plus, le fruit du Saint-Esprit apparaît dans la vie d'une personne qui vit par la foi, qui croit en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Galates chapitre 5, versets 22 à 23 parle de fruits tels que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Ces fruits montrent une direction complètement différente d'une vie vécue en suivant les désirs de la chair. En fin de compte, la parole d'avertissement que Dieu prononce est claire. C'est que même si une personne croit à la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, si elle vit en ne suivant que les désirs de la chair, sa vie subira finalement une perte de foi, et elle ne pourra pas éviter la discipline pour une mauvaise vie. Cependant, une personne qui vit une vie axée sur la propagation de l'évangile de l'eau et de l'Esprit de Dieu grandira progressivement dans la foi selon la volonté de Dieu et avancera vers une vie qui porte le fruit de la vie. Paul utilise un ton très fort, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ici, le but n'est pas la ruine, mais la restauration spirituelle. Lorsqu'on les considère à travers le prisme de l'évangile de l'eau et de l'esprit, les péchés du monde ont déjà été transmis sur le corps de Jésus par le baptême que Jésus a reçu de Jean. Le jugement de ces péchés a été accompli sur la croix et le salut a été confirmé par la foi croyante. Néanmoins, une vie qui refuse de traiter le péché comme un péché devient une vie qui nie la vie d'un évangéliste de l'évangile. C'est précisément à cause de ce résultat que Paul a mentionné la séparation ecclésiastique pour couper court à l'indulgence charnelle. Ce n'est pas une punition, mais une mesure spirituelle décidée pour conduire celui qui s'est égaré à la repentance. Celui qui poursuit une direction différente du but que Dieu veut est celui qui périt à la fois spirituellement et physiquement. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 8. La Bible montre des avertissements dans de nombreux endroits qu'une vie poursuivant une direction différente du but que Dieu veut peut finalement conduire une personne à des résultats destructeurs à la fois spirituellement et physiquement. Lorsque Dieu a créé les humains, il les a faits pour vivre dans une relation avec Dieu. Et il a prévu que la vie de foi d'une personne deviendrait complète en vivant pour la propagation de l'évangile de l'eau et de l'esprit dans la volonté de Dieu. Cependant, si une personne abandonne ce but et vit centrée sur ses propres désirs et ses propres pensées, la direction de sa vie s'éloigne de Dieu. La Bible parle clairement de ce principe de foi. Proverbe chapitre 14, verset 12 dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort ». Cela peut paraître juste et ressembler à un succès aux yeux d'une personne, mais si l'on continue à suivre une voie différente de la direction que Dieu veut, cette voie peut finalement conduire à des résultats destructeurs. Cela nous dit qu'une vie qui a quitté la norme de foi donnée par Dieu peut paraître prospère à l'extérieur, mais intérieurement, c'est une vie qui décline et pourrit progressivement. De plus, la Bible explique le résultat d'une vie qui a quitté Dieu comme une destruction spirituelle. Romains chapitre 8, verset 6 dit « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Si l'on vit centré sur les désirs de la chair et le but de sa propre chair plutôt que de suivre le but que Dieu veut, on finira par perdre la foi spirituelle et la paix dans son cœur, et la direction de sa vie s'éloignera progressivement de Dieu. Ce fait apparaît à plusieurs reprises dans l'histoire de la nation d'Israël dans les temps anciens. Lorsqu'ils vivaient en suivant la parole et le but donné par Dieu, ils faisaient l'expérience de la protection et de la bénédiction de Dieu. Mais lorsqu'ils quittaient Dieu et suivaient leur propre voie, ils faisaient l'expérience de la confusion, de la destruction et de la ruine. Ce n'est pas un simple événement historique, mais cela montre le principe de vérité spirituelle qui apparaît dans la relation entre Dieu et les humains. Cependant, le message de la Bible ne s'arrête pas simplement à souligner le jugement. Dieu est celui qui attend qu'une personne revienne lorsqu'elle s'engage sur la mauvaise voie. Dieu exhorte les gens à abandonner leur propre voie et à revenir à Dieu. En fin de compte, une vie qui continue à poursuivre une direction différente du but que Dieu veut conduit une personne à des résultats destructeurs à la fois spirituellement et physiquement. Cependant, Dieu désire toujours qu'une personne abandonne sa propre voie, croit en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit de Dieu, reviennent à Dieu et choisissent la voie pour obtenir la vie. Paul parle de l'image de la Pâque. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Ici, le levain parle de la corruption du péché laissé négligé sans être résolu et des pensées rationalisées de la chair. À la suite de cela, Paul fait une déclaration décisive. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Cela parle de la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est-à-dire que cela parle du fait que les péchés du monde ont été transférés sur le corps de Jésus par le baptême que Jésus a reçu de Jean, que le jugement du péché a été achevé sur la croix et qu'il a donné le salut à ceux qui croient en ressuscitant de la mort. Par conséquent, un croyant n'est pas quelqu'un qui vit en abritant du levain, mais quelqu'un qui vit par la foi, qui jette le levain et mange les pains sans levain. Les pains sans levain dont il était question ici ne signifient pas créer une vie sans péché par ses propres forces, mais parlent de celui qui vit par la foi, qui croit en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui a déjà lavé proprement les péchés du monde. Êtes-vous en train de dire de s'éloigner de ceux qui vivent sans faire de la propagation de l'évangile leur but? Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Première épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 9 à 11. Cela signifie qu'au sein de la communauté à laquelle l'évangile a été confié, il faut se tenir éloigné des relations avec ceux qui ne poursuivent que leurs désirs charnels et ignorent la finalité de la propagation de l'évangile. Il ne s'agit pas de haïr ou d'ostraciser les personnes, mais d'un principe de vie spirituelle destiné à protéger la pureté de l'Église et de l'évangile. L'apôtre Paul a mentionné ces questions dans plusieurs de ses épîtres. Il dit dans Philippiens chapitre 3, versets 18 à 19, « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Ici, Paul mettait en garde contre les personnes qui parlent de la foi, mais qui, dans la vie réelle, ne poursuivent que leurs propres désirs et des fins mondaines. De même, dans Romains chapitre 16, versets 17 à 18, il exhorte à éloigner-vous d'eux au sujet de ceux qui causent des divisions dans l'Église et qui suivent leur propre cupidité. Paul explique que de telles personnes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Cette parole signifie que la communauté doit discerner et se tenir sur ses gardes afin de ne pas perdre le centre de l'Évangile. Il existe une direction claire dans la vie de la communauté à laquelle l'Évangile a été confié. Il s'agit d'une vie qui recherche la volonté de Dieu, d'une vie vécue pour la propagation de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que Dieu a confié. Cependant, si une personne ignore continuellement le dessein de Dieu et ne poursuit que ses propres désirs et son profit personnel, cette influence peut apporter la confusion à toute la communauté. C'est pourquoi la Bible enseigne que l'Église doit traiter de telles manifestations avec discernement spirituel. Toutefois, l'enseignement de la Bible n'a pas pour seul but d'ostraciser les personnes. Le but de cette exhortation est double. Premièrement, il s'agit de protéger la communauté afin qu'elle ne perde pas le centre de l'Évangile. Deuxièmement, il s'agit d'accomplir l'œuvre consistant à aider la personne qui s'engage sur un mauvais chemin à prendre conscience de son état, à se repentir et à revenir. Par conséquent, à l'égard d'une personne qui continue de choisir une vie où elle ne poursuit que ses désirs charnels, sans prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, ce qui est nécessaire n'est pas un acquiescement inconditionnel ou une complaisance, mais le discernement et la prudence. Cependant, en même temps, la Bible enseigne que nous devons toujours laisser ouverte à cette personne l'occasion de se détourner et de revenir. En définitive, la communauté de l'Église ne doit pas être une communauté centrée sur les désirs humains, mais un lieu où la finalité de la propagation de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est au centre. C'est pourquoi les saints doivent s'édifier mutuellement et s'encourager les uns les autres à vivre dans la direction de l'Évangile. Et, à l'égard des manifestations qui s'écartent de ce centre, ils doivent exhorter et guider dans l'amour et dans la vérité. Paul corrige le malentendu, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Les croyants ne sont pas appelés à être complètement coupés du monde. Le véritable problème, c'est l'état intérieur de l'Église, c'est-à-dire ceux qui sont appelés frères, mais qui refusent de traiter le péché comme un péché. Ceux que Paul a désignés du doigt sont ceux qui, bien qu'ils portent le nom de frères, persistent obstinément dans l'impudicité, la cupidité, l'idolâtrie, l'outrage, l'ivrognerie et la rapacité, et ne se repentent pas. Le but de se tenir éloigné d'eux n'est pas le rejet, mais d'avoir l'assurance de l'Évangile. L'Église qui protège l'ordre spirituel de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors ? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 12 à 13. Paul conclut par ces paroles : qu'importe pour moi de juger ceux qui sont au dehors ? Ne devriez-vous pas plutôt exercer le jugement à l'intérieur de Christ ? L'Église n'existe pas pour condamner le monde. Cependant, l'ordre de la communauté de la foi édifiée sur l'Évangile de l'eau et de l'Esprit doit assurément être maintenu. Ôtez le méchant du milieu de vous. Cette parole n'est pas un langage de haine. C'est un dernier avertissement en vue de la repentance et de la restauration. Le chapitre 5 de 1 Épître aux Corinthiens lance à l'Église de Dieu d'aujourd'hui cette question pénétrante. Utilisez-vous la grâce de Dieu comme un bouclier pour dissimuler vos péchés ? Ou bien êtes-vous de ceux qui vivent par la foi en croyant en la justice de Dieu en tant que personne ayant déjà été rendue pure par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit ?